toute la parole de Dieu. Parce que certains versets, ça nous fait plaisir de le lire et de le mettre en pratique. Et certains versets, on dit, oh, ça c'est compliqué. C'est pas pour nous ça. Ça, ça reste pour certaines personnes, mais pas pour nous. Donc je vous invite à lire à partir du verset 21. On va aller jusqu'au. Peut-être au verset 27. Verset 21 qui dit: dès là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu m'en es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. On va s'arrêter là, parce qu'à partir du verset 28, on rentre dans une autre session un peu particulière. Donc, je suis sûr qu'il y a quelques mois de ça, vous vous rappelez que j'étais là et j'ai prêché ici, et vous rappelez toute la prédication que j'avais faite. On est d'accord. Donc, je ne vais même pas poser la question, je sais que vous êtes déjà, vous vous rappelez du tout. Et puis, ce que je vais prêcher ce matin, c'est un peu lié à ce que j'avais prêché il y a quelques mois déjà. On avait parlé d'être étranger sur la terre et de ne pas être attaché aux choses de ci-bas. Donc ici, ça entre un peu dans cette ligne de pensée. Et j'aime beaucoup ce genre de sujet. Parce que moi, je vis par la foi. Je suis missionnaire ou pasteur, assistant, comme vous voulez. Mais enfin, je dépends des dons des gens ou de que l'Église me donne à manger, etc. Donc pour moi, c'est très très simple de prêcher ça. Alors que Nino, il a tout laissé pour le Seigneur. Non. Nous avons toujours encore des choses à mettre au pied de la croix et à laisser. Et moi aussi. Et moi aussi. Donc si on entre dans une session qui est très intéressante, parce que le contexte de chapitre 16 de Matthieu, c'est quoi? C'est ce qui a donné aujourd'hui un peu le système, comment on dit, papal, on dit ça? Le système catholique du pape. Rappelez-vous hein, que. Vas-y, tu peux le prendre. Hein. C'est bon? Là pour que ce soit. Ouais. Ça ira? Je le reprends.
Voilà. Ça va? Donc, vous rappelez cette histoire où Pierre, il est avec Jésus, hein, dans le chapitre 16 ici de Matthieu. Il dit: mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ah, un prophète! Jérémie, enfin, quelqu'un d'autre, quoi. Et Jésus lui pose la question: et vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Et la réponse de Pierre, c'est: t'es le Christ, t'es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dira: c'est pas la chair et c'est pas le sang qui t'a révélé ça, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a donné cette révélation. T'es le Messie, t'es Dieu. Il était en train de dire ça à Pierre. Et puis Jésus le dira, et toi je te le dis, Simon, t'es pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, dans le système catholique de Rome, nous avons cette compréhension de la parole que Pierre, c'est l'apôtre Pierre, qui aujourd'hui, toutes les successeurs de Pierre, auxquels l'église est bâtie sous Pierre lui-même. Alors que le texte apparemment nous montre que Pierre, c'était un individu. Et la pierre auquel Jésus a bâti son église, c'était Jésus lui-même. Et Pierre même le dira plus tard. Parce qu'on a deux mots pierre qui est trouvé dans ce verset. Le premier mot, c'est Petros, et c'est Pierre l'individu. Le deuxième, ce n'est pas le mot Petros, c'est le mot roc, le rocher, que nous avons. Nous savons tous que c'est Jésus. C'est comme si Jésus l'avait dit, donc, toi, tu es Pierre, et sur cette roche-là, je bâtirai mon église. Mais c'est intéressant parce que c'est très encourageant. Il y a les clés du royaume qui est donné à Pierre. Donc, c'est très beau tout ce qui se passe. Et jusqu'après, on arrive dans ce passage-là auquel nous allons méditer ensemble ce matin. Ici, il y a au moins trois vérités qu'on peut souligner. La première, c'est la volonté de Dieu. La deuxième, c'est la volonté des hommes. Et la troisième, c'est la volonté de Dieu pour les hommes. Commençons par la volonté de Dieu. Et heureusement que cette volonté de Dieu est là. Sinon, on ne serait pas là. Personne ne serait là ce matin. C'est le verset 21 qui dit, « Dès là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Ici, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que jusqu'à présent, oui, Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, mais pas de façon très, très claire comme il parle maintenant. À partir du moment que les disciples ont reconnu qu'il est le Messie, qui était Jésus, et qu'il était Dieu lui-même, qui était le Christ, il dit, ok, maintenant je vous annonce avec tous les mots, quelle est ma mission ici? Quelle est la volonté de Dieu? Il annonce que sa volonté, c'est qu'il aille à Jérusalem. Et aller à Jérusalem pour souffrir beaucoup. Et pour être mis à mort. Être mis à mort. On comprend maintenant la réaction de Pierre. Mais d'abord, je veux que vous compreniez la réaction de Dieu qui a envoyé son Fils unique ici-bas pour donner sa vie à la croix pour la rançon de nos péchés. Ça, c'était la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. Mais sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon de péché. C'est ce qui dit la parole. Il était nécessaire que Jésus vienne. Il était nécessaire qu'il donne sa vie à la croix. Il était nécessaire qu'il souffre beaucoup. Et qu'il ressuscite aussi au troisième jour. Tout ça était nécessaire. Et j'aime ce verset. Parce que Jésus le dit, on ressent un temps de joie. C'est sa mission. C'est pour ça qu'il est venu. Pour aller à Jérusalem, alors qu'on est plutôt très loin de Jérusalem, à ce moment, il dit, il faut que j'aille à Jérusalem maintenant. Il faut que j'accomplisse la mission. Il faut que je fasse la volonté de mon Père. On sait que dans la parole de Dieu, c'est par obéissance. C'est par obéissance que Jésus est allé jusqu'à la croix. Rappelons-nous, avant le moment de la croix, à Gethsémani. Et il prie. Et sa prière, c'est que sa volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Que Dieu le Père, la volonté de Dieu le Père soit faite. Et si tu peux m'éloigner cette coupe, c'est une chose. Mais que ça soit pas fait. Que ça soit pas fait ma volonté, mais ta volonté. Jésus, lui-même, l'homme qui n'avait pas de péché, l'homme le plus sage qu'on ne peut jamais retrouver, n'a pas choisi sa volonté. Il a choisi la volonté du Père. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il y aille à la croix et qu'il donne sa vie. Ici, le verset, il dit, c'est intéressant, il dit que je sois mis à mort. Et cette expression ici, mis à mort, ce n'est pas une mort qui est légale ou méritée, qu'on trouve dans ses écrits grecs et dans les écrits anciens, c'est plutôt mis à mort de façon injuste. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Injustement, il est mis à mort. Sans avocat et sans aucune preuve qu'il avait commis un crime. Il est mort. Volontairement. Oui, il était tué, il était mis à mort par les chefs religieux de cette époque-là. Mais personne ne pouvait le tuer si ce n'était pas la volonté du Père. Il a donné sa vie volontairement. Qui c'est qui méritait cette mort à la croix? C'était toi et c'était moi aussi. Mais qui c'est qui a payé le prix? C'est Christ. Et ça, je pense qu'il faut que ça soit clair pour chacun de nous. C'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour les hommes. C'est de donner son Fils unique pour mourir à la croix. Pour que toi et moi, on soit présents ici ce matin. Et pour le péché que vous avez peut-être commis encore ce matin. Et vous avez demandé pardon au Seigneur, j'espère. C'est son sang à la croix qui est versé pour nous, qui pardonne nos péchés. Êtes-vous reconnaissant? Êtes-vous reconnaissant à la volonté de Dieu de tout sauver? Cette volonté n'est pas venue de nous-mêmes. Elle est venue déjà de lui. Parce que si on aime Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimés au premier. Lui, Dieu lui-même a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce n'est pas nous qui a demandé. C'est son amour, par son amour qu'il a fait. Christ, il fallait des souffrances. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Il fallait qu'il aille à Jérusalem, qui a beaucoup de souffrances. Tous les coups qu'il a reçus, toutes les condamnations injustes qu'il a reçues aussi. Il fut mis à mort injustement. Il a dit, je vais ressusciter au troisième jour. Est-ce que la volonté de Dieu s'est accomplie? Est-ce que Jésus a été à Jérusalem? Oui. Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Oui. Est-ce qu'il est mort? Mais la question qui a beaucoup de poids ce matin, est-ce qu'il est ressuscité au troisième jour? Oui. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. En Corinthiens 15, c'est un très beau chapitre qui nous enseigne l'importance de la résurrection, la nôtre et celle du Christ aussi. La volonté de Dieu s'accomplisse. Mais est-ce que, on va voir plus tard, est-ce que la volonté de Dieu pour les hommes s'est accomplie aussi par les hommes? Cette première vérité, elle est courte parce que vous le connaissez. La volonté de Dieu, que Jésus aille à Jérusalem et qu'il donne sa vie pour chacun de nous. Et maintenant, on va voir quelle est la volonté de l'homme. Et ça devient plus intéressant parce que la volonté de Dieu, ça peut nous dépasser des fois. C'est ce qu'il priait là ce matin. Ça nous dépasse le fait que Dieu envoie son Fils unique à donner sa vie pour nous. Alors que nous-mêmes, on n'est pas prêt à donner la vie de notre Fils pour personne ici. Alors que nos enfants, ils ont péché. Ils ne sont pas les plus saints du monde. Et de temps en temps, ils nous énervent même. Et même eux, on n'est pas prêt à donner leur vie pour personne. La volonté de Dieu, ça nous dépasse. Son amour, ça nous dépasse. Mais ça nous transforme. Et ça nous a sauvés aussi. Mais je vous invite à aller dans le verset 22. Et on entre maintenant dans la volonté des hommes. Ou la volonté de Pierre, si vous voulez. Mais je pense que c'est votre volonté aussi. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Il dit... À Dieu nous plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. C'est intéressant. Parce que la volonté de Dieu, elle est établie. Et l'homme, il veut aller contre la volonté de Dieu. Ça, c'est la nature de péché. Dieu veut quelque chose. Et nous, on dit, ah non, on veut autre chose complètement différente. Pierre, ce moment ici, il n'est plus dirigé par le Saint-Esprit comme il était avant. Le même Pierre qui a reconnu que Christ, que Jésus était le Christ, le Messie, et qui a reçu les clés du royaume, maintenant, il va complètement à l'opposé de la volonté de Dieu. Mais pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Et la question que je vous pose ce matin, pourquoi vous et moi, de temps en temps, pour parler de Dieu tous les jours, nous allons contre la volonté de Dieu. Alors qu'elle est vraiment claire et écrite de façon très très claire dans sa parole. On peut la regarder. Nous avons déjà les œuvres qu'il nous a préparées d'avance pour qu'on puisse marcher dans ces œuvres-là. Mais pourquoi qu'on va contre sa volonté? C'est notre chair qui est encore là. Ici, dans ce cas, on a un Pierre compréhensible. Vous imaginez, vous marchez plus de 2 ans avec quelqu'un. Il est parfait. Il n'a pas de péché. Il fait des miracles. Il est connu. Tu es le disciple. Tu l'aimes. Avec toutes tes forces, tu l'aimes. Comme on aime les frères et sœurs ici ce matin, j'espère. Comme on aime nos enfants, les gens de notre famille, nos proches. Et vous imaginez que cette personne arrive devant vous et dit, il est nécessaire que je souffre beaucoup, que je sois mis à mort. Je dis, mais non, ne dis pas ça. Je ne veux pas ça pour toi. Je ne veux pas. La volonté de notre chair, elle parle plus fort. Nos émotions vont parler plus fort que la volonté de Dieu. Et on ne réfléchit plus avec le Saint-Esprit. On n'est plus dans la parole. Nous sommes dans notre émotion, dans notre chair. Et c'est facile d'aller contre la volonté de Dieu. Et quand on voit, nous sommes déjà animés par le diable lui-même. C'est ce qui s'est passé avec le Pierre. C'est compréhensible aimer Jésus et vouloir rester avec lui. Mais c'est incompréhensible de vouloir empêcher la volonté de Dieu. Si on se rend compte ici, le verset 23 qui dit « Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrête de moi, Satan, tu m'es un scandale. » C'est la même expression qu'il va utiliser en Matthieu 4, Jésus dans le désert. Il va jeûner, il va prier, et Satan, il arrive pour le tenter. Il dit, « Arrête de moi, Satan. Tu ne vas pas empêcher la volonté de mon Père. Je suis là pour l'obéir, et pas pour le désobéir. » Dans Luc, il va préciser encore plus, dans l'évangile de Luc, il dira quoi? Il dira que Satan, il va s'éloigner jusqu'au moment favorable. Ça veut dire qu'il reviendra le tenter. Et ici, l'instrument du diable, si on peut le dire comme ça, c'est Pierre lui-même. Satan ne voulait pas que Jésus aille jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce que c'était le salut pour chacun de nous. Vous imaginez qu'il y a toutes les promesses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament et qui annonçaient déjà Jésus mort à la croix et ressuscité au troisième jour. Qui annonçait sur Christ qu'elle allait donner sa vie, qu'elle allait sauver toute l'humanité, tout le peuple d'Israël. Ce qu'elle est en train de faire ici, Pierre, c'est de dire non, je ne veux pas que ces promesses s'accomplissent. Pierre ne se rend pas compte qu'il lui-même allait périr à l'enfer si Jésus n'est pas mort à la croix. Il croyait faire le bien et des fois on croit faire le bien aussi. Mais des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je vais vous donner quelques exemples pratiques pour que vous puissiez comprendre plus ce que je suis en train de dire. Donc, Pierre commence à reprendre Jésus. Ce mot est utilisé des fois pour décrire une petite menace qu'on peut faire à quelqu'un d'autre. Attention, tu ne vas pas là-bas. Je te préviens, on fait ça avec nos enfants. Troisième fois que je te le dis, ah là, ça va mal se passer. Il le menace, il le reprend, il dit non, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Et puis le ton de ce verbe qui est utilisé ici, c'est plutôt qu'il, comme ce Pierre avait dit plusieurs fois, mais pas une seule fois. Il insiste, Pierre. Il dit non. Non. Et puis cette phrase qui est incroyable, à Dieu nous plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. À Dieu nous plaise, Seigneur, qui pouvait dire plutôt que Dieu ait miséricorde de toi et te délivre de ce moment. Des fois, nous sommes dans ce même contexte-là. On dit à Seigneur, aie miséricorde de moi, ne me laisse pas passer par ces épreuves. Mais c'est la volonté de Dieu pour te faire grandir dans la foi. Il ne va pas te délivrer. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien. C'est son plan. C'est ce que dira Jacques dans le chapitre 1. Les épreuves nous amènent à la persévérance. Et quand la persévérance va accomplir son œuvre, ça nous amène à la perfection. Pierre a compris ça, mais très plus tard. Quand on regarde l'épître de Pierre, nous sommes en train d'étudier ça à Florac, ce moment, 1 Pierre. Combien il parle de la souffrance, de la joie, mais aussi de l'héritage que nous avons au ciel. Et il dira, nous sommes appelés à la souffrance. Pierre va le reprendre. À Dieu nous plaise, Seigneur, que Dieu ait miséricorde de toi et ne te laisse pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, Pierre reconnaît que Jésus est le Messie et qu'il est Dieu. Et de l'autre côté, c'est lui qui veut guider Jésus. Nous sommes appelés à être le disciple, à le suivre. C'est ce qu'il dira Jésus plus tard. Il faut que tu me suives, plutôt que moi, je te suis. Pierre est en train de dire, suis-moi. Moi, je connais ce qui est bien. Et ce n'est pas Jérusalem. On va ailleurs. Il y a des belles plages ici. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. On fait autrement. Un exemple pratique. Si vous avez des enfants, par exemple. On dira à nos enfants, j'ai déjà dit ça, la dernière fois que j'ai prêché ici, je vais vous rappeler de ça. Ah, il faut que tu sois médecin. Il faut que tu sois avocat. Et ton enfant dit, moi je veux être missionnaire dans des pays où il y a la guerre aujourd'hui. Annoncer l'évangile à ce genre avant qu'il soit mort. Et tu diras, mais non, Dieu nous plaise mon enfant. Que Dieu ait miséricorde de toi. Va plutôt au Brésil, il y a des big church là-bas, tu seras bien payé. Pourquoi là-bas? Sans vouloir, nous sommes en train d'aller contre la volonté de Dieu. Par amour, entre guillemets, à notre enfant. Mais quoi faire? Même avec les gens de notre église auxquels on aime tellement, on n'a aucun conflit, on n'a rien, on s'aime. Et puis, cette personne a dit, Dieu m'appelle ailleurs. Mais non, reste là avec nous, regarde comme on est bien là. Ensuite, on appelle. Et puis, je mets la main dans ma poche, je vais te soutenir. Je vais t'envoyer des dons, et je vais prier pour toi. Dès qu'on a un frère qui souffre, dès qu'on a des personnes qui passent par des moments difficiles, oui, nous avons ce sentiment envers la personne, on veut l'aider. Mais il ne faut jamais oublier que peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est la volonté de Dieu. Je ne parle pas de quelque chose lié au péché, auquel les conséquences, ça revient un coup à nous. Mais des fois, le Seigneur permet des choses dans notre vie pour nous faire grandir dans la foi. Et ce n'est pas à nous de le dire, « Ah, Dieu nous plaise, Seigneur, ne fais pas ça. » Mais plutôt, Seigneur, tu connais toutes les choses. Je te remets entre tes mains. Et je sais que tu as quelque chose de mieux pour moi. Tu mets un scandale, c'est ce que l'a dit Jésus à Pierre. C'est intéressant parce que ce mot scandale, c'est aussi un mot qu'on utilise pour notre Pierre. Mais maintenant, une pierre d'achoppement. On peut être deux pierres différentes en même temps. Soit la pierre qui a la révélation de Dieu et qui est prêt à tout faire pour lui. Et des fois, nous sommes une autre pierre prêt à empêcher la volonté de Dieu à cause de nos sentiments, à cause de nos émotions et à cause de notre amour pour notre propre être, pour notre propre corps, notre propre volonté et confort. Ce qui est arrivé à Pierre, ça peut nous arriver tous les jours. J'ai entendu récemment une personne à l'église, parce qu'on étudie Pierre, qui a dit ce verset dans 1 Pierre, je pense que c'est le verset 16, qui dit bon, « Soyez saints comme Dieu, il est saint. » Impossible, la personne a dit. On ne peut pas être saint, on ne peut pas être parfait. Alors que Jésus a bien dit dans Matthieu, je pense, chapitre 5, à partir de verset 40, quelque chose, 45 peut-être. Il a bien dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais la personne a dit, non, impossible. Regarde Pierre, il a renié Jésus. Il ne voulait pas la souffrance, Pierre. J'ai dit, mais ok, mais regarde Pierre plus tard. Même son épître, regarde plus tard. Comment il est mort. Et jusqu'où il était prêt à aller avec pour le Seigneur. Il est appris. Il est appris. Et nous devons aussi apprendre à changer et à se focaliser sur la volonté de Dieu et pas sur la nôtre. Pardon. La volonté de Dieu, des fois c'est la souffrance, des fois c'est la persécution. La volonté de Dieu, c'était Jésus mort à la croix. La volonté de l'homme, c'est non, Jésus ne soit pas mort à la croix. Mais quelle est la volonté de Dieu pour nous maintenant? Merci. Verset 24. On va avancer. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce verset est revenu cette semaine, pendant la permanence qu'on faisait à l'église, dans une discussion très simple, qui parle, est-ce que la femme doit porter un voile ou pas? Comme il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de ça, il y en a un, c'est difficile à arriver à une conclusion. Du coup, nous étions en train d'étudier tous ces chapitres de 1 Corinthiens 11 ensemble. Mais l'introduction de cette étude et de cette discussion, c'était pourquoi qu'on se bat pour des convictions petites comme ça, entre guillemets, hein. Il y a d'autres commandements dans la parole qui sont très très clairs. Et qui ça revient beaucoup de fois. Et là, on n'est pas du tout zélé pour le faire. Et un des commandements, c'est celui qui veut venir auprès de moi, qu'il renonce lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et là, on a moins de personnes qui viennent nous parler et de nous dire, il faut absolument que je porte ma croix, pasteur. Mais plutôt, il faut absolument que les femmes de l'église mettent un voile sur la tête. Il faut absolument que ça soit comme ça, et comme ça, et comme ça. Alors qu'il faut absolument que les disciples de Christ portent sa croix et se renoncent à eux-mêmes. C'est la marque d'un vrai disciple, c'est de porter la croix. Est-ce que vous portez votre croix? Mais qu'est-ce que ça veut dire porter la croix, déjà? Premièrement, il dit qu'il faut renoncer à soi-même. Ça veut dire que ce n'est plus mes intérêts qui sont en jeu, ce n'est plus ma volonté, ce n'est plus mes rêves, ce n'est plus mon petit confort qui est la priorité dans ma vie. C'est plutôt la volonté de Dieu. Et Jésus a dit ça en plusieurs reprises. Une des choses qu'il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Lui, il a tout renoncé. Il s'en va dans Philippiens chapitre 2. On a un exposé de comment il s'est baissé, il s'est humilié lui-même. Pour nous. Pour des gens mauvais et pécheurs comme toi et moi. Et nous, on se croit que nous sommes plus que Jésus, comme Pierre ici. Et il l'appelle Seigneur, mais il dit, mais fais ma volonté à moi. Jésus a dû passer par la croix, Jésus a dû souffrir. Et nous, on dit, non, pas nous. Jésus se renonçait lui-même, il s'abaissait lui-même, il s'humiliait lui-même. Et nous, on dira, ah non, pas nous. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça pour nous. Mais la volonté des hommes, c'est pas du tout ça. C'est pas ça ce qu'on voit dans le monde. C'est pas ça ce que nous enseigne la télé. Pour ceux qui regardent la télé. Les films d'aujourd'hui. Ah, c'est pas ça ce qu'ils nous enseignent. C'est plutôt autre chose. C'est plutôt aller, tu peux y aller, tu peux être le plus fort, tu peux être le plus riche. Tu peux être le plus intelligent. Mais ils oublient de le dire. Tu peux perdre ton âme aussi. Tu peux perdre ton âme. Renoncer soi-même. Il portait sa croix. Il ne sait pas mettre la croix sur le dos et rester sans rien faire. Il faut marcher avec. Parce qu'il dit, il faut me suivre. On peut bien le faire. Hein? Mettre cette poudre ici, sur le dos. Et après, oh, c'est bien. C'est un peu lourd, mais ok, je le dépose là et je continue ma vie. Non, tu le portes. Jésus l'a porté. J'ai trouvé une citation qui parle un peu par rapport à porter la croix, que des fois on dit est-ce qu'on doit porter la croix, mais dans quel sens? Est-ce qu'on doit donner notre vie à la croix comme Jésus a fait? Non. Un seul sacrifice, et un seul salut, un seul baptême. Jésus a fait une fois pour toutes et puis nous, on ne serait pas capable de le faire. Il fallait quelqu'un qui n'ait pas de péché. À moins que quelqu'un ici parmi nous n'a jamais péché. Et des fois, on pense qu'on n'a jamais péché. Si un jour mon fils me dira, Tommy, il a 2 ans et demi, j'ai un deuxième fils qui fête 1 an aujourd'hui. Si un jour il me dira, ah, j'ai jamais péché, papa. Il dira, tu rigoles, tu ne te rappelles plus. Moi, j'ai vu tes péchés. On parlait de l'obéissance dans Romains chapitre 1, que le ministère de Paul, c'est d'amener les gens à l'obéissance de la foi. Et c'est intéressant parce que j'ai réfléchi à ça dans le fait qu'un enfant, tu dois l'apprendre à obéir. Même quand ils sont ados, je vois que des ados ici, des jeunes, on doit les apprendre à obéir encore. Mais quand ils sont tout petits, on n'apprend jamais à la désobéissance et ils le font comme ça, tout seul. Pourquoi? C'est le péché qui est déjà là. Ah, mais il est tout mignon. Mais il a besoin de Jésus aussi pour être sauvé. Une citation de la croix qui dit qu'un gouverneur de la Syrie, il fait crucifier 4000 rebelles à Séphoris, la capitale de la Galilée occidentale. Les Galiléens comprenaient donc bien ce que signifiait porter sa croix. Puisque tous ces condamnés avaient été contraints de porter la croix, donc cette poudre horizontale de la croix, jusqu'au lieu du supplice. La crucifixion devait en premier lieu servir d'exemple public pour tous les rebelles, afin qu'ils se soumettent à l'autorité de Rome. Elle était donc le symbole suprême de la soumission et devait inculquer à chacun l'idée que toute insoumission serait sévèrement réprimée. En portant sa croix, le rebelle démontrait publiquement qu'en fin de compte, il était soumis à l'autorité de Rome. Donc, porter sa croix signifiait se soumettre à l'autorité contre laquelle on était révolté auparavant. C'est se renier soi-même. C'est cesser de se rebeller contre le roi et sa règle. Cesser d'être hostile à Dieu et désobéissant. Se soumettre positivement au roi et à son règne en suivant Jésus. Belle citation. L'histoire dit qu'au moins 30 000 personnes étaient crucifiées pendant la vie de Jésus. Pendant que Jésus était vivant. Porter la croix, ce n'était pas bizarre pour ce genre-là. Mais Jésus amène dans un autre contexte. Ce n'est pas simplement parce que tu as commis un péché, tu portes ta croix. Non. Il faut être obéissant au roi. Et Jésus, il a payé le prix qui nous... C'était à nous de le payer. Nous, on était rebelles. Et des fois, nous sommes aussi encore. Nous, on était désobéissants à la loi de Dieu. Donc, l'exemple de soumission, c'est lui qui a pris. Et maintenant, il dit, prenez la croix et suivez-moi. Renoncez-vous-même. Attachez-vous. Soyez obéissants au roi. Soyez obéissants à Dieu. Ne soyez pas rebelles aux autorités, à l'autorité de Dieu. Il portait sa croix. Porter sa croix et renoncer soi-même, c'est lié. On ne peut pas porter la croix sans renoncer à nous-mêmes. Et c'est quoi le but de porter une croix si on ne suit pas Jésus non plus? Je veux que ça soit clair pour nous qui porter la croix ici. Ce n'est pas avoir un mari qui n'est pas chrétien. Oh, mon mari qui n'est pas chrétien, ça c'est ma croix. Ça c'est les épreuves. C'est une chose. Porter la croix, c'est être entièrement soumis au Seigneur Jésus et le suivre. On va continuer. Parce que je pense que vous avez faim. Pas plus que moi. La volonté de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils portent sa croix et qu'ils renoncent à eux-mêmes. J'entends cette histoire-là. Je lisais encore de cet esclave. C'est pas une histoire vraie, hein, je pense. Cet esclave que aux États-Unis qui travaillait à l'époque et qui chantait tout au long du travail. Il chantait au Seigneur Jésus, il était chrétien. Toujours dans la joie, toujours en train de chanter. Et son maître ne comprenait pas. Il dit, le gars, il est en train de travailler là, au soleil, travaille dur, il chante, il est content. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es content? Ah, parce que je connais le Seigneur Jésus, il est mort pour mes péchés. Je suis sauvé. Il dit, comment on fait pour avoir ça? Il dit, c'est simple. Vous allez mettre vos habits, vous allez travailler avec moi. Il dit, mais non, ça va pas trop là. Je vais pas travailler avec toi, c'est moi le maître. C'est toi l'esclave. Il dit, ok, donc c'était ça, c'est ça la condition. Une semaine plus tard, il revient, ah non, sérieusement là, comment on fait pour avoir cette joie qui t'a là? Comment on fait pour avoir ce Jésus là? Il dit, c'est comme je vous avais dit une semaine. Mettez la main à la pâte. Travaillez avec moi ici dans l'eau dure. Il dit non, je ne peux pas le faire. Il dit, c'est ça la condition. Il continue à chanter et être content. Plus tard, il revient le maître. Il lui dit, là, je ne peux plus là. Il me faut cette joie, il me faut ce qui t'a, il faut ce Jésus là. Je suis prêt maintenant, je vais travailler avec toi. Il dit non, on n'a pas besoin. Il fallait juste être prêt à le faire. Et des fois, nous n'allons pas porter, on ne va pas subir des grandes persécutions ou des grandes souffrances en tant que chrétien. Mais il faut être prêt à le faire. Il faut être prêt à le faire. C'est ce qu'il nous demande. Êtes-vous prêt aujourd'hui à donner votre vie à cause de l'Évangile? Si la réponse c'est non, on va lire le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Pourquoi Jésus nous demande de donner notre vie? Pourquoi il faut qu'on soit mort à cause de l'Évangile? Ça serait beaucoup plus simple s'il n'y avait pas tout ça. Tu crois en Jésus? Tu es sauvé? Tout va bien? Ah, parfait! Mais pourquoi il dit il faut me suivre? Pourquoi il dit il faut porter la croix? Pourquoi il dit qu'ils vont vous persécuter? Ils m'ont persécuté à moi, ils vont vous persécuter à vous aussi. Pourquoi tout ça? Est-ce que ça c'est important? Pourquoi Jésus dit il faut que je donne ma vie? Il faut que je lâche tout, que je renonce moi-même? Parce que celui qui vous sauve sa vie, il la perdra. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que tu perdes ta vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est remplie de commandements qui dit « Donnez ta vie » à cause de l'Évangile. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos rêves, à se détacher des choses de si bas et s'attacher aux choses d'en haut. Parce que tout ça, ça nous amène à la mort. Ça nous amène à une vie misérable, comme tous les autres qui n'ont pas Christ. Par contre, si on donne notre vie, et si on lâche tout pour lui, c'est là qu'on a tout gagné. Et c'est pour ça qu'il nous demande. Nous n'avons pas un Dieu qui est en train de... qui veut la souffrance de son peuple parce que c'est un jeu pour lui. Non. La mort nous amène à la vie. Jésus est en train de ressusciter Lazare. Il y a cette femme qui lui dit, mais il est mort. Et sa réponse, c'est, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. La mort est nécessaire pour qu'on puisse vivre aujourd'hui. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités aussi avec lui. Si vous ne voulez pas la mort dans votre vie charnelle, dans votre vie physique, vous n'allez jamais avoir une vie spirituelle. Si on se pose la question aujourd'hui, mais pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à mener une vie spirituelle avec le Seigneur? Pourquoi je suis toujours dans le même péché? Il faut la mort. Il faut mourir. N'essayez pas d'avoir une vie spirituelle qui est parfaite, entre guillemets, si vous voulez continuer avec votre vie charnelle à côté. Les deux natures ne se correspondent pas. C'est pour ça qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Sinon, ils seraient des amis et des bons copains. Si vous voulez garder votre vie, si vous voulez vivre pour votre carrière, pour vos enfants, pour votre famille, si vous voulez vivre pour votre argent, pour votre petite retraite à la fin, vous allez tout perdre. Il faut vivre pour Jésus. C'est ce qu'il a dit Paul. Si je vis, c'est pour Christ. Et si je meurs, je vis avec lui, je tout gagne. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Le mot perdra, ça veut dire mettre en destruction, en ruine. Et le monde aujourd'hui, où les gens se battent pour sauver leur vie, ils sont en train de se détruire, sans savoir. Et ce que Pierre est en train de dire à Jésus avant, il disait, mais il ne faut pas que tu meurs. Il dit, si, si, c'est là que je vais retrouver ma vie. Pierre n'avait pas compris. Et c'est pour ça qu'il a renié Jésus après. Mais il a compris plus tard. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie à cause de l'évangile. Et tant d'autres personnes ont fait la même chose. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu garder leur vie. Parce qu'ils étaient au courant de ces vérités-là. Que si je donne ma vie, je vais la gagner. Mais si j'essaie de la garder, je vais la perdre. C'est mieux de donner notre vie à celui qui peut nous garder de toute chute. Et nous garder jusqu'au dernier moment irréprochable devant Dieu. On lit ça dans Jude, verset 24. Si je ne me trompe pas de verset. Mais c'est dans Jude. Quand Pierre dira qu'il a réservé cet héritage au ciel pour nous, et il nous a gardé pour cet héritage aussi. Nous, autant que pécheurs, on ne pouvait pas garder notre vie. Il faut qu'on la confie à lui. Lui, il peut le faire. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Si vous avez confié votre vie entre ses mains. Mais si vous n'avez pas encore fait, vous êtes en train d'aller dans la ruine et directement à l'enfer. Directement dans l'abîme. Dans cette mort éternelle. La seule chose à faire, c'est de donner votre vie à lui. Et nous, en tant que chrétiens déjà, si vous essayez de garder votre vie, et si vous êtes en train de la garder et de l'aimer tellement votre vie, qui peut-être dans votre tête, c'est déjà ça, ah, Jésus, reviens pas tout de suite, tout va très bien pour moi. Prenez votre croix avec vous. Il faut la porter. Et lui, cet premier amour, quand vous avez donné votre vie à Christ, et que vous étiez capable de tout faire pour lui, qui vous évangélisez à l'arrêt du bus, qui vous parlez de Christ à tout le monde, que vous n'avez pas honte de l'évangile comme Paul l'a dit. Et lui, ce premier amour. Peut-être nous sommes en train de déposer notre croix en poule de côté. On dit on reste pas très loin parce qu'on vient à l'église quand même, mais elle est plus sur notre dos. On ne veut plus la responsabilité de confier notre vie entièrement au Seigneur. Parce que si on la confie, si on donne notre vie entièrement au Seigneur, et qu'on dit, c'est toi le Seigneur et pas moi. Fais ta volonté. Peut-être il va nous demander des choses qu'on ne veut pas le faire. Mais soyez prêts à le faire. Même si vous ne le faites pas encore. Comme ce maître, cet esclave-là, il arrive et dit, maintenant je suis prêt. S'il faut devenir un esclave, je deviens un esclave. Il dit, non, pas besoin, il faut juste être prêt à le faire. Êtes-vous prêt à donner votre vie à cause de l'évangile? Ou vous allez renier votre foi si l'occasion se présente? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi c'est à cause de Jésus et pas à cause de toi-même. À cause de moi, la trouvera. Verset 26, ça continue. J'ai bien précisé que ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Notre volonté en tant qu'homme, c'est non, pas de souffrance, pas de croire, rien du tout, pas d'aller à Jérusalem, c'est quoi ce truc? Mais la volonté de Dieu, c'est, oui, donner ta vie. Verset 26, c'est une illustration du verset 25 et presque. Mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Êtes-vous en train de vouloir gagner tout le monde? Attention. Attention. Des questions qu'on peut se poser pratiques. Pourquoi que j'ai fait les études que j'ai fait? Pourquoi que j'ai le travail que j'ai? Pourquoi que j'ai la famille que j'ai, la église que j'ai? Est-ce que tout ça, comme on a lu dans Romains 11, verset 36, c'est pour lui, par lui, pour sa gloire à lui? Ou est-ce que c'est pour nous-mêmes? Des fois, même notre choix d'église, c'est pour notre propre gloire. Ah, cette église, elle est trop petite, et puis de toute façon, je ne peux pas jouer de la guitare électrique ici. Les filles ne vont pas trop m'aimer, donc je vais dans une grande église. Et j'ai fait ça pour moi. Et si quelqu'un me pose la question, je dirais que c'est pour Christ. Personne ne connaît ma pensée de toute façon. À part Dieu, mais il ne dit rien à personne, lui. Des fois, notre choix de carrière, c'est pour nous-mêmes aussi, et pas pour le Seigneur. Des fois, notre salaire, c'est pour nous, et pas pour le Seigneur. Notre rêve, c'est pour nous, et pas pour le Seigneur. Nos enfants, c'est pour nous, pas pour le Seigneur. Tout revient pour la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose dans votre vie qui ne glorifie pas le Seigneur, rejette-le. Rejette-le. Parce que à quoi ça sert de gagner tout si à la fin, on a perdu notre vie? Et qu'est-ce que ça peut être plus cher que le salut qui nous est réservé aux cieux? Qu'est-ce que ça peut être plus cher que l'éternité auprès de Dieu, sans péché, sans souffrance, sans rien du tout? Coup de joie et de louange. Rien, rien pour acheter ça. Que le sang de Christ, il nous a rachetés. Lui, il a fait. Verset 27, et on finit pour cette conclusion. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vais relire le verset. Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est incroyable, parce que les premiers versets qu'on a lus, on parlait de Jésus, souffrance, mise à mort. Et il finit ici pour dire, le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire. Nous devons être participants des souffrances de Christ pour participer aussi à sa gloire. Ça, c'est entièrement biblique. Le même Jésus, c'est ce qu'ils ont dit ces anges pendant que Jésus est monté au ciel dans Actes. Dieu, pourquoi vous êtes tristes? Et il dit aux disciples, ce même Jésus qui est monté au ciel, il reviendra. Pourquoi porter la croix? Pourquoi donner notre vie? Pourquoi enfin, pour résumer, pourquoi faire la volonté de Dieu? Parce qu'à un moment donné, il reviendra. Il va donner à chacun selon ses œuvres. Ce ne sont pas des œuvres pour être sauvés, mais ce sont des œuvres qu'on fait autant que sauvés. Parce qu'on doit tous apparaître devant le tribunal de Christ. Et je ne voulais pas du tout arriver devant lui et avoir honte d'avoir vécu que pour moi et de ne pas avoir fait sa volonté. Je vous exhorte ce matin et j'ai fini avec ça. Je vous exhorte avec tout mon cœur. Donnez votre vie à Christ. Vivrez par lui. N'essayez pas de garder votre vie. Vous allez la perdre à un moment donné. Mais tout ce qu'on donne à Dieu, on ne perd pas. On gagne. Et vous imaginez maintenant, c'est nous tous ici, nous sommes quoi? Je ne sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Si chacun de nous prend en sérieux la parole de Dieu, il donne notre vie, et qu'on donne notre vie entièrement à lui, en renonçant à nous-mêmes, et en pratiquant la parole de Dieu, la volonté de Dieu tous les jours de notre vie, je crois que la ville de Bordeaux sera plus la même. Notre église sera plus la même. Notre famille ne sera plus la même. Nos amis ne seront plus les mêmes. Peut-être on va subir une grande persécution. Et peut-être on sera mis à mort à cause